alors que je n'ai rien fait, que je suis chômeur comme 800 autres de mes camarades, et que la violence sociale, c'est les 12 camarades qui sont décédés depuis la fermeture de notre usine. C'est ça la violence sociale. Et que les vrais bandits, ceux qui ont fermé notre usine, eux s'en foutent plein les poches, ça verse des dividendes et des royalties partout où les multinationales font valoir la misère. Partout, nous devons leur répondre par le tous ensemble et l'unité la plus large possible. Il va falloir que tous ensemble, dans la rue, on renouvelle le plus souvent possible ce genre d'initiative. À Amiens, on est parti le 13 janvier. On a commencé par Marseille et on a fini par Paris. On a fait des dizaines et des dizaines de comités de soutien venant de camarades de la base qui, bien souvent, ont dû souffrir pour pouvoir imposer qu'aujourd'hui à Amiens on puisse se rassembler. Parce que oui, oui aussi, il va falloir qu'on regarde dans nos structures comment on bouscule, comment on change les choses, comment la base reprend ce qui lui appartient. Ouais. Trop, c'est terminé. Nous allons reprendre ce qu'ils nous ont volé. Ouais.
La personne que vous venez d'écouter, c'est le syndicaliste Xavier Mathieu. Il était à Amiens le 19 et 20 octobre dernier pour soutenir, comme des milliers de personnes, les 8 ex-salariés de Goodyear qui faisaient appel pendant ces deux jours à leur condamnation à 24 mois de prison ferme pour avoir séquestré leur patron en 2014. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le nouveau reportage de Micro-Rebelle Hebdo. Aujourd'hui, c'est le troisième numéro et le dernier du cycle que nous avons inauguré il y a de ça deux semaines, autour de la mobilisation à Amiens qui s'est tenue le 19 et 20 octobre dernier en soutien aux 8 ex-salariés de Goodyear. Dans ce numéro, un peu particulier, déjà parce que c'est le dernier, et puis parce que nous vous proposons, non pas deux interviews, mais une seule, le collectif du 8 juillet, autour des violences policières. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau reportage. Bonne écoute!
Donc Micro-Rebelle accueille pendant le temps d'une petite interview le collectif le 8 juillet, c'est ça? Bah, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pouvez présenter aux auditeurs et auditrices le collectif, sa création et ses actions?
Le collectif 8 juillet, c'est parce que ça fait référence à une histoire qui nous est arrivée le 8 juillet 2009. On s'est fait tirer dessus par la police au flashball. Suite à l'expulsion d'un lieu qui s'appelait la clinique, qui était un lieu occupé, un lieu d'organisation sur la ville de Montreuil. Et donc, suite le soir de l'expulsion, il y a eu une petite manifestation suite à laquelle la police a tiré au flashball. Il y a six balles qui ont été tirées. Et 5 qui ont touché des personnes au-dessus des épaules. Pour le plus gravement touché, il a perdu un œil. Suite à cette affaire, il y a eu une grande manifestation qui a été organisée le 13 juillet. Et suite à ça, le collectif s'est un peu mis en place, en particulier en rencontrant d'autres personnes mutilées ou blessées par la police. Et donc en essayant de faire des liens avec d'autres histoires de ce type, quoi.
Donc ça fait 7 ans que cette histoire s'est passée. Depuis 2010-2011, le collectif a pris un peu plus forme parce que suite à la lenteur de la justice, vu que les trois keufs qui étaient inculpés, bref, ça tardait, quoi. Ne serait-ce que l'instruction. Et du coup, suite à ça, les gens se sont dit « bon, bah, faut un peu bouger autour de cette histoire parce qu'on va pas se laisser endormir non plus par le temps de la justice ». Donc les gens ont commencé à se réunir entre 2010 et 2011 et à former le collectif 8 juillet, qui au début était plutôt axé sur l'étude de ce cas-là en particulier. Ou en tout cas s'intéressait plus à ce cas-là. Et puis finalement, ça a été plus un outil en fait pour aller à la rencontre d'autres personnes qui ont été touchées par des violences, mais aussi surtout par des flashballs, parce que vu que c'est une arme qui est très utilisée dans les quartiers populaires, mais aussi de plus en plus, qui est aussi très utilisée en manifestation, et du coup dans les stades aussi, du coup ça touche énormément de gens et il y a énormément de blessés. Et de ceux qui, depuis 2005, se sont... organisés, non pas, pas organisés, mais ceux de, des cas qu'on connaît, on va, en gros des gens qu'on connaît qui se sont manifestés, il y en a une quarantaine dont on connaît leur histoire. Il nous semble qu'il y en a beaucoup plus, parce que ça c'est que les gens qu'on connaît. Et pendant le mouvement de la loi travail, on voit bien que, qu'en fait il y a énormément de gens qui ont été touchés aussi et blessés, qui ne se sont pas manifestés, qui se manifestent petit à petit à travers des réseaux, à travers Internet aussi, lorsqu'il y a des appels à témoignages ou des trucs comme ça. Donc du coup, le collectif le 8 juillet par exemple a été à l'initiative d'une, suite à la mort de Rémi Fraisse, ouais, d'une assemblée des blessés et des proches victimes de violences policières. Et on a organisé une première rencontre en novembre 2014, où on a été en manif ensemble à Paris pour manifester suite à la mort de Rémi Fraisse. Et du coup ça nous a aussi permis d'aller voir d'autres familles, d'autres proches qui, là, pour le coup, étaient plutôt victimes de meurtres de la police. Et faire du lien, s'entraider au niveau juridique, mais aussi au niveau médical, donner des contacts de journalistes, échanger des informations sur au point de vue pratique, quoi. Voilà, quoi. En gros, c'est aussi un outil, quoi. C'est pas que un collectif qui raconte son histoire, quoi.
Alors, vous êtes intervenu parce que vous faites partie des invités qui ont pu discourir sur scène. Enfin, la présence pour vous d'un collectif comme le collectif du 8 juillet sur un événement comme un soutien au 8 de Goodyear comme aujourd'hui et demain, qu'est-ce que ça représente pour vous ?
C'est de faire le lien entre différentes formes de répression, en tout cas des formes de répression qui traditionnellement sont séparées, isolées, à savoir d'une part la répression quotidienne dont sont victimes en particulier ceux qu'on désigne comme habitants des quartiers populaires, qui est une espèce de répression de basse intensité avec une présence quotidienne et un harcèlement quotidien des forces de l'ordre qui prend aussi bien la forme de contrôle, d'occupation des quartiers et parfois de mutilation et de meurtres policiers, de faire le lien entre ces violences-là et la répression qui touche aujourd'hui un certain nombre de luttes sociales et notamment voilà la criminalisation des syndicalistes avec des peines de plus en plus lourdes dans les tribunaux sur des faits qui relèvent de la lutte syndicale que ce soit voilà des manifestations, des occupations de locaux, des actions de sabotage. Et du coup l'idée voilà c'est de montrer que cette répression là c'est une répression globalisée qui rentre dans le cadre de la violence d'État, qu'il s'agit ni dans les cas de lutte sociale, ni dans les cas de meurtres policiers, de bavures ou de dysfonctionnement des forces de l'ordre, mais bien d'une violence systématique et de créer du coup des liens entre des milieux qui historiquement sont séparés, isolés, quoi. Voilà, en gros.
On a l'impression à l'heure actuelle que la violence policière, la répression policière, elle est plus généralisée sur le peuple, mais elle vise des catégories. Les ouvriers, les quartiers populaires, les populations immigrées. Ça donne cette impression que d'un côté, si on regarde d'un œil très généraliste dans ce qui se dit dans les médias, etc., que c'est le peuple qui est visé, mais quand on regarde, ce sont des petites parties du peuple pour monter les populations entre elles, monter cette haine de l'autre, un peu comme pour diviser pour mieux régner.
L'État vise des catégories de personnes pour mieux diviser, ça c'est sûr. Je veux dire, elle va taper sur les plus faibles pour que celui de la classe du dessus se sente pas concerné par la question. Mais là, je crois que en tout cas, ce qu'on a pu observer dans le mouvement social contre la loi travail, c'est que, alors évidemment, on parle de gens un peu sensibilisés, un peu politisés, un peu conscientisés, qui viennent dans les manifestations, et que la passerelle, elle va se faire, à mon avis, avec d'autres personnes, c'est sûr. mais qu'il faut du temps. Mais en tout cas, dans le mouvement social, là, par exemple, à travers le cortège de tête aussi des manifestations, on pouvait voir que ton voisin, c'était pas forcément celui auquel tu t'attendais à ce qu'il soit ton voisin. Il y avait des gens aussi bien des étudiants que des travailleurs précaires, enfin des étudiants qui sont aussi des travailleurs précaires, des gens au chômage, des gens au RSA, que des cadres aussi, parce qu'il y a plein de syndicalistes qui montaient dans qui étaient aussi cadres, qui montaient dans le cortège de tête. Et là, on petit à petit, et ça prendra le temps que ça prendra, les gens vont commencer à se rendre compte que c'est la même répression qui s'abat et qui s'étend en fait à toutes les couches de population. Donc maintenant, qui joue encore la carte des identités nationales, qui joue encore de la carte des divisions, qui joue encore à nous diviser aussi à travers des espèces de prismes et des fantasmes. Ils peuvent jouer à ça pendant encore longtemps, mais quoi qu'il en soit, là, les gens, ils se rendent bien compte que c'est pas comme ça que ça marche. Alors il y a aussi le spectre du Front National qui a bon dos, parce que finalement, les idées qu'ils portent sont bel et bien appliquées à certaines populations, même si c'est pas le Front National, mais ça reste quand même aussi leurs idées, elles sont bien là, quoi. Je pense que si c'est évidemment qu'ils jouent la carte de la division, mais les gens, ils sont pas cons, quoi. Ils sont pas cons, ils voient bien que là, ça a des limites.
Et justement, pour revenir sur la question des violences policières, on a vu la dernière manifestation, c'était le 15 septembre, à Paris. C'est un syndicaliste, justement, un syndicaliste de Sud, qui a été éborgné par... alors on ne sait pas exactement si c'est un tir de flashball ou en tout cas qui a été éborgné par une arme de la police. Et du coup, il ne peut plus y avoir cette opposition entre ceux qui seraient les casseurs, les émeutiers, etc. et les syndicalistes qui seraient juste en manifestation. C'est la distinction se fait de moins en moins en fait.
Vous écoutez Lost Step One de Lopez et le reportage va reprendre dans quelques instants. We'll be right back.
si mes calculs sont bons, ça fait 11 mois que la France est en état d'urgence, alors qu'on nous avait dit que ça allait durer que 3 mois. Ça va même se prolonger, enfin, il n'y a pour l'instant rien d'annoncé, donc ça fera un an le 13 novembre prochain. Ça vous évoque quoi, cet état d'urgence temporaire qui devient petit à petit permanent ?
Juste pour rappeler qu'on est en alerte rouge depuis 1995. Que ça fait plus de 20 ans que, en fait, c'est pas l'état d'urgence, mais que les militaires sont dans les rues, qu'il y a une présence militaire sur le territoire français quotidienne dans les rues, quoi. Que le 13 novembre, effectivement, ça a été une tuerie qui a choqué tout le monde. Que là, on vit encore dans l'affect et dans le souvenir de ce qui s'est passé, parce que c'était chez nous, c'est nos quartiers qui ont été visés. Il faut le rappeler quand même parce que faut rappeler que cet événement-là, c'est un événement qui a touché beaucoup de monde et qui nous a touché nous quoi aussi. Parce que c'est nos quartiers, c'est nos bars. Le 20e, Paris-Est, nous on habite Montreuil. Voilà quoi, c'est pas n'importe quoi quoi. Et que la réponse de l'État, elle nous convient pas, mais elle convient pas à grand monde non plus. On voit bien que si ce n'est que. Ça devient un prétexte en fait aussi pour pouvoir continuer à contrôler plus facilement, pour pouvoir enlever de plus en plus de droits de circuler librement dans la rue, pour pouvoir réprimer et contrôler les pauvres en gros quoi, enfin ceux qui sont justement sont dans la rue. Et oui, eux ils utilisent bien l'état d'urgence de manière assez calculée quoi. Enfin, si, je sais pas si je suis claire, mais en tout cas voilà.
Alors tu as eu raison de rappeler qu'effectivement depuis 1995 il y a ce plan Vigipirate qui est instauré et qui n'a jamais été enlevé, même dans les périodes où il n'y avait plus rien. Alors j'ai l'impression que avec ce plan Vigipirate qui est là depuis plus de 20 ans et cet état d'urgence qui maintenant ça fera un an que c'est là, que à part dans les milieux où, comme tu le disais tout à l'heure, dans les milieux où les gens ont une conscience politique ou se sentent concernés, j'ai l'impression que, aux yeux du grand public, il y a une forme d'acceptation de cette présence militaire et policière maintenant, sans que, même si dans nos milieux, on est alerté et on essaye de montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le grand public se sente de plus en plus concerné et commence à réagir vis-à-vis de ça ?
Je pense qu'on se tromperait de, on se tromperait de stratégie si à un moment donné on interpellait les gens sur le truc d'état d'urgence. Parce que avant de penser à ça, je pense qu'il faut déjà qu'on essaye de s'organiser pour vivre ensemble. Et je préférerais plus, à mon avis, qu'on organise dans nos quartiers, là où on habite, dans nos familles, dans nos maisons, avec nos proches, des stratégies de survie et qu'on le répande, de stratégies de survie et de solidarité surtout. Et ensuite, effectivement, l'état d'urgence, on pourra. Enfin, voilà. Parce que ce qui fera notre force, c'est d'abord notre cohésion. C'est comme la question des violences policières. Ça peut pas être une fin en soi comme lutte. L'état d'urgence, on peut pas lutter contre l'état d'urgence et laisser tout le reste à côté. On peut pas lutter contre les violences policières et laisser tout. Ce sont des conséquences d'un système et ce système-là, il faut le changer. Et à la limite, on a toujours essayé qu'à la base, d'abord là où on vit, on essaye de vivre ensemble, de s'organiser, de créer des liens pour qu'ensemble on puisse être conscient de l'état dans lequel on est, enfin de la vie qu'on mène, et à partir de là se rendre compte de l'oppression. Mais on peut pas dire regardez nous, on va pas aller voir les gens et dire regardez on est en train de se faire écraser. Non, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Moi si on vient vers moi et on me dit ah bah tu vois pas que, je vais dire mais t'es qui, t'es un instit, viens me voir dans mon quartier, viens vivre avec moi les mêmes choses, viens on fait des choses ensemble et après peut-être qu'on peut discuter. Mais enfin, on n'est pas des profs quoi, on n'est pas ni des profs et voilà, on n'est pas des républicains, ça c'est sûr, on n'est pas des républicains.
Bah, très bien, bah, écoutez, bah, merci beaucoup le collectif du 8 juillet. Est-ce que vous avez un dernier mot ?
Oui, c'est que le procès des policiers tireurs de Montreuil le 8 juillet 2009 seront au tribunal du 20 au 25 novembre 2016 au tribunal de Bobigny et que sera organisé autour de ce procès
beaucoup d'initiatives. Voilà, ça se passera pas seulement à l'intérieur du tribunal, mais aussi à l'extérieur. Donc, pour vous tenir informé, vous pouvez aller voir sur le blog du collectif 8 juillet ou sur les sites militants où on communiquera les diverses informations.
Chères auditrices et auditeurs, le cycle sur la mobilisation à Amiens qui s'est tenu le 19 et 20 octobre dernier en soutien aux 8 de Goodyear touche à sa fin avec cette interview du collectif du 8 juillet autour des violences policières. J'espère que cette interview vous a plu et que vous l'avez trouvée intéressante. Ils ont beaucoup de choses à dire, ce collectif. N'hésitez pas à aller les voir sur leur site internet pour en apprendre plus. Un mot sur la musique, donc c'était l'artiste Lopez et son album Free, teinté d'Electro Soul. Vous avez pu écouter le morceau Lost Step One. Les petites transitions musicales viennent de l'intro de son morceau Sam Bunding. Et on va se quitter avec le morceau Las Cosas Simples. Ces trois morceaux sont sur son album Free. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau reportage. On reprendra les bonnes vieilles habitudes de Micro Rebelle Hebdo. Avant de vous quitter, bien sûr, vous pouvez réécouter ce cycle sur notre site microrebelle.fr en podcast pour l'emmener partout ou en streaming directement. Et puis vous pouvez aussi, bien sûr, via notre site, écouter toutes nos émissions, qu'elles soient littéraires ou d'actualité. Donc microrebelle.fr. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.